Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde, bienvenue à cette émission des attachés de presse. Nous sommes aujourd'hui lundi le 9 décembre et c'est ici votre animateur Renaud Duval qui vous parle, de retour à la barre. Et aujourd'hui, on a une émission assez tranquille et assez courte qui va durer seulement une heure. Et pour cette occasion, en fait, j'ai un invité avec moi que vous avez déjà entendu, il était déjà venu à l'émission il y a quelques semaines de ça. C'est Vincent Vallée, qui est étudiant en droit et politique appliquée de l'État ici à l'Université de Sherbrooke. Donc, bonjour Vincent.
Bonjour.
Donc Vincent, aujourd'hui, de quel sujet tu vas nous parler?
En fait, je vais vous parler d'un rapport qui est sorti, là, ça fait déjà deux semaines. Le rapport, il s'appelle « Ambition, affirmation et action ». C'est le rapport du Comité consultatif sur les enjeux constitutionnels du Québec. Et on a ajouté la petite phrase « au sein de la Fédération canadienne ». C'est un comité qui a été mis sur pied par le gouvernement du Québec à l'époque où il y avait des changements dans les sondages. La CAQ, ça allait moins bien. Et le Parti québécois était en remontée. Puis aussi, on se rendait compte à cette période-là que la CAQ n'était pas capable d'avoir de résultats par rapport à ses demandes avec le Canada. On l'a vu beaucoup en immigration.
Mm-hmm. Le rapport d'impôt unique.
Le rapport d'impôt unique. Il y a eu plusieurs échecs de la CAQ. Puis là, ils se sont dit, bon, on avait fait une proposition avant notre élection. Puis là, on sait plutôt où ce qu'on se trouve. La CAQ avait déjà eu quelques gains, il faut le mentionner, au niveau, disons, constitutionnel. Parce que, hein, on se rappelle, là, la question constitutionnelle, c'est... Il y a eu, nous, on est jeunes un peu, là, mais avant nous, il y avait la question
brassé,
du référendum.
Ça a brassé. 90.
Exactement. Il y a eu l'échec du Lac Meech, il y a eu l'échec de Charlottetown, et ensuite, il y a eu le référendum de 1995. Et après, il y a eu une espèce de vide autour de la question constitutionnelle. Bon, certains vont me dire, il y a eu des discussions, oui, mais il n'y a pas eu de...
Concrètement, c'est ça. La situation reste très floue depuis 1982. On est comme entre deux chaises.
Oui, c'est ça. Bien, surtout depuis 1995, en fait, depuis le deuxième référendum. Puis la coalition Avenir Québec avait fait des propositions en ce sens avant son élection de 2018, donc avant qu'elle prenne le pouvoir. Puis finalement, elle a été plus reconnue pour faire des actions qui disent nationalistes, donc liées aux affaires internes du Québec, c'est-à-dire la laïcité, la question de la langue française. Mais qu'est-ce qui est par rapport à la place du Québec dans le Canada? Il y a eu une espèce de flou. Ça leur a été reproché. Il y a eu certaines initiatives qui ont... De dire que ça a fonctionné, on ne le sait pas encore. Mais en tout cas, il y a eu des tentatives dont on ne connaît pas encore le résultat, qui est d'abord le fait de reconnaître la nation québécoise au sein de la Constitution canadienne par la loi sur la langue française. Le projet de loi 96 qui vise à modifier la loi 101 a ajouté deux articles à la Constitution du Canada. Un de ceux-là, c'est de reconnaître le Québec comme une nation. Et si je me souviens bien, l'autre, c'est que c'est de la nation et de langue française. Les effets constitutionnels de ça sont pas encore connus, parce que c'est la première fois qu'on tente une chose comme
contesté.
Celle-là. Ça pourrait être contesté ou ça pourrait être interprété. Ça, on pourra en parler dans un autre épisode. Mais c'est en fait cette procédure-là qu'ils ont utilisée modifie la Constitution du Québec, non celle du Canada.
Oui, justement, ce qui est ressorti le plus dans les médias concernant ce rapport-là, c'est la proposition principale de doter le Québec d'une constitution.
Oui, exactement. C'est ce qui a fait beaucoup parler. Il faut savoir que le rapport, en fait, c'est un très gros rapport. C'est un très gros rapport au sens de pas le nombre de pages, mais la quantité de travail que ça représente.
Il y a une quarantaine de recommandations aussi.
Il y a 42 recommandations. Puis le rapport, il se présente non pas comme une liste d'épiceries, mais vraiment comme une posture renouvelée du Québec envers le fédéral. Puis il se présente aussi non pas comme un rapport caquiste ou un rapport partisan, mais un rapport dans lequel chaque parti politique, chaque famille politique du Québec peut tirer son avantage là-dedans. Donc, il y a des arguments pour les fédéralistes, il y a des arguments pour des indépendantistes, il y a des arguments pour la coalition Avenir Québec. L'important, c'est de savoir qu'il faut que le Québec reprenne une posture active, une posture combative pour aller chercher justement des gains, puis qu'il cesse de rester dans une espèce de statu quo où beaucoup ont l'impression, comme moi, que le Québec, il perd du pouvoir à travers le temps, puis que le Canada, Ottawa, aspire des pouvoirs, pas juste du Québec, de toutes les provinces. Il faut savoir que en 1982 a changé les règles de la partie. Le rapatriement de la Constitution a changé les règles de la partie, c'est-à-dire qu'il a changé les procédures, les façons de modifier la Constitution, mais il a changé le cadre constitutionnel. Et les indépendantistes ont cherché à... dans les années en 82, à tirer leur épingle du jeu là-dedans. Mais une fois que ça a été le rapatriement constitutionnel a eu lieu, qui a été fait, les règles à partie étaient établies. Mais ce que je constate, c'est que depuis 1982, il n'y a jamais eu de réflexion de fond sur les nouvelles manières dont le Québec ou n'importe quelle province pouvait aller chercher des gains à l'intérieur de ce cadre-là, parce qu'on est passé toute cette période-là, à se demander comment est-ce qu'on peut sortir du Canada. C'est une option légitime, mais lorsqu'on pense à comment sortir du Canada, on ne pense pas à comment est-ce que le Québec peut se renforcer à Canada ou pas. Puis même pour les fédéralistes, c'était d'empêcher que le Québec sorte de la fédération. Fait qu'il n'y a pas eu cette réflexion-là qui a été faite chez les fédéralistes non plus. C'est pour ça que dans un texte, je parle d'une léthargie autour de la question constitutionnelle, parce qu'on est resté au point de 1980.
On aura l'occasion d'y revenir plus en détail après la pause. Donc maintenant, je vais juste mentionner aussi, c'est ça le sujet dont je vais vous discuter aujourd'hui pour ma part dans ma petite chronique. Au départ, je pensais parler de Notre-Dame de Paris, parler d'une bonne nouvelle, la réouverture de cette grande cathédrale qui a maintenant plus de 800 ans. Et finalement, il est arrivé un événement hier, en fait, dans les dernières 36 heures. C'est la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie. C'est une très, très grosse nouvelle. Ça va changer l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. Donc, je vais vous parler de ça parce que c'est très important. Et c'est une bonne nouvelle d'une part, puisque c'est un dictateur sanguinaire qui s'en va. Mais d'autre part, ça laisse beaucoup planer d'incertitudes géopolitiques et militaires. Donc, on aura l'occasion d'y revenir plus en détail plus tard un peu dans cette heure. Maintenant, on va aller à la pause. Et on se retrouve pour la suite pour continuer dans le vif du sujet en ce qui a trait au Québec et aux enjeux constitutionnels. Bonjour tout le monde, de retour à l'émission en compagnie de Vincent Vallée. Donc, désormais, on rentre vraiment... On est un peu rentré dans l'introduction dans le vif du sujet déjà, mais vraiment, là, on va se donner un bon 25 minutes pour discuter de ce rapport-là très volumineux, une centaine de pages, 42 recommandations. C'est vraiment une fenêtre d'opportunité là, pour le Québec qui s'ouvre en termes d'innovation, en termes de politique publique puis de loi, hein.
Bien, c'est exactement ça, en fait. Selon ma perspective, c'est vraiment une ouverture vers une nouvelle façon de penser la question nationale. Et j'utilise même l'expression que ça renouvelle le fondement de la question nationale au Québec, parce que ça nous amène à prendre acte, en fait, de 1982. Ça peut sembler... Ce que j'étais en train de dire un petit peu tout à l'heure, c'était justement que c'est comme si on était resté dans la posture de 1980 jusqu'en 2024.
Comme s'il y avait deux options seulement, c'était garder rester dans le Canada tel qu'il est, qui est la position fédéraliste, ou carrément en sortir directement, comme la position souverainiste. Alors qu'il y a moyenné une position innovante entre les deux.
Je dirais que tu as raison. Ces deux options-là restent tout aussi valides. On peut rester dans le Canada ou en sortir. Ça ne change pas cette question-là. Mais les modalités de le faire changent. Okay. Parce que pour rester dans le Canada, pour ceux, les fédéralistes, la question, c'est de savoir est-ce qu'on regarde le Canada à siphonner nos pouvoirs ou est-ce qu'ils vont décider d'aller chercher des pouvoirs, soit en allant aller voir dans le reste du Canada, de négocier avec des provinces puis aller voir le fédéral pour faire ces négociations-là, ou tout simplement d'aller agir avec des États étrangers, comme on pense souvent à la France, mais ça peut être le Liban, le Maroc, ça peut être le Japon, que sais-je, que le Québec ou même les États-Unis. On a vu là en ce moment que le Québec essaye d'avoir sa voix par rapport aux États-Unis dans le contexte qui est changeant. Mais l'idée, c'est que le Québec agisse comme un État-nation. C'est en ce sens-là que le rapport, c'est d'abord et avant tout une nouvelle posture. C'est pas juste une liste d'épiceries. C'est vraiment une manière de penser puis de réfléchir. Puis pour les indépendantistes, c'est pareil. Pour les indépendantistes, ça donne d'abord des arguments pour l'indépendance parce qu'il y a énormément d'éléments là-dedans qui sont des distorsions du système canadien. On va me dire souvent qu'on les connaît, des gens, mais moi, je les entends pas parler de ces distorsions-là. C'est pas de ces éléments-là précisément dont ils parlent. Puis ensuite, ben s'il y a des fédéralistes qui veulent tenter, mais les souverainistes qui se disent « mais le fédéraliste n'acceptera pas », mais alors, c'est au fédéral de faire la démonstration. Puis s'ils refusent, ça va donner des arguments aux indépendantistes. Donc, c'est un rapport qui est gagnant pour le Québec.
Peux-tu donner justement, parce qu'il y a plusieurs recommandations qui vont dans ce sens-là, de comme tester les limites du système fédéral, vraiment que le Québec s'autonomise le plus possible. Peux-tu donner des exemples un peu, c'est quoi les genres de recommandations qui vont dans ce sens-là?
Avant de parler des recommandations précises, je vais parler des différentes manières dont ils prévoient agir. Moi, j'ai défini ce rapport-là comme un rapport qui est basé sur l'intérêt national du Québec. Puis les procédures sont de deux grands ordres. Il y a un ordre juridique puis un ordre politique. Il y a des procédures de modification constitutionnelle qu'on appelle soit multilatérales, soit bilatérales, soit unilatérales. Multilatérales, ça, ils l'écartent. Ça, c'était les méthodes où il fallait négocier multi, ça veut dire par des multiples acteurs, donc avec les autres provinces et l'État canadien. Bilatéral, ça veut dire que le Québec négocie avec le Canada. Il y a certaines modifications de la Constitution où les autres provinces n'ont pas besoin d'être consultées. Le Québec peut négocier avec le fédéral. Puis, selon le rapport, on peut faire une demande pour forcer le Canada à négocier par résolution, résolution de l'Assemblée nationale, exactement. Puis, il y a les modifications unilatérales. C'est de ça que j'ai parlé un petit peu plus tôt. Dans le fond, c'est que le Québec, par une disposition de la Constitution canadienne, il peut venir modifier la partie du Québec qui concerne le Québec de la Constitution. C'est pour ça qu'on dit la Constitution du Québec, puisque la Constitution est en partie dans la Constitution du Canada. Fait que ça, c'est la voie juridique. Il y a la voie politique. Donc ça, c'est ce que j'appelle le volontarisme et l'effectivité. La doctrine Gérin-Lajoie, qui est la doctrine, dans le fond, de la politique internationale du Québec.
En matière de relations internationales.
En matière de relations internationales. Ce qu'elle dit, dans le fond, c'est que le Québec est compétent en matière de relations internationales dans ses propres champs de compétences. Donc en éducation, en santé. Fait que avec les écoles, les universités, ces choses-là, il est compétent. Puis ça, c'était pas une modification constitutionnelle, c'était de l'effectivité. Parce que l'international s'ouvre à ce moment-là, le Québec s'est approprié ce pouvoir-là, puis là, il était trop tard pour le fédéral.
C'est ça, c'est dans les années 60, on a juste décidé de le faire.
On a décidé de le faire, puis aussi c'est parce que c'était le Royaume-Uni qui décidait pour le Canada, pour les relations internationales. Fait que le Canada n'avait pas cette compétence-là non plus, que le Québec s'est approprié tout de suite. Fait que ça s'appelle l'effectivité. Puis d'ailleurs, parmi les recommandations, on propose d'étendre la doctrine Gérin-Lajoie pour la repenser à son fondement, c'est-à-dire que, par exemple, je pourrais vous donner un exemple bien précis, c'est que quand il y a eu la loi 96 pour franciser des établissements, une des dispositions, c'était de franciser les écriteaux. Puis ça affectait les entreprises qui faisaient affaire du commerce avec le Québec, dont des entreprises américaines. Et les États-Unis, ils ont fait part de leur désaccord avec cette position-là parce que ça les forçait à s'adapter. Et les États-Unis se sont plaints à Justin Trudeau. Parce que le commerce international, c'est une compétence fédérale. Mais c'est pour une loi québécoise. Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, ne peut pas s'ingérer dans les lois québécoises. Donc, ça a fait une situation super ambiguë, très malaisante. Le Bloc québécois avait écrit directement à la Maison-Blanche. Ça a fait une situation qui est un peu grotesque pour Justin Trudeau. Mais ça propose de faire, c'est que dans les enjeux de négociation avec le Canada qui implique le Québec, mais il faudrait que le Québec ait un représentant, pas que le premier ministre, ça peut être un ministre, ça peut être un acteur qui soit à l'intérieur de ça. Fait que c'est, dans le fond, c'est d'étendre cette logique-là à toutes les relations internationales qui dépassent les strictes petites compétences. Tant que ça concerne le Québec, on est présent, puis nous autres, on revendique.
Un peu comme, par exemple, l'UNESCO, où ça fait à peu près une vingtaine d'années que le Québec a un siège à l'UNESCO affilié à la délégation canadienne, mais quand même, le Québec a son propre siège. Comme quand on va dans les conférences internationales de négociation, le Québec, en tant qu'État, est présent.
Ben, en fait, ça, c'est un bon exemple de cette logique-là d'agir comme un État. Mm-hmm. Ça, c'est toute une question qu'on a dans mon cours. Le Québec, sais-tu? Est-ce que le Québec en lui-même, c'est un État? On se répète souvent ça. Moi, ce que je dis, parce que j'ai déposé un mémoire avant ce comité-là, puis ce que j'exprime, c'est que pour être un État, il ne suffit pas de le déclarer. Il faut agir comme un État. C'est par l'action, c'est par l'effectivité qu'on crée l'existence. Mm-hmm. Puis c'est ça que le rapport il propose, justement. Puis c'est plus que la création d'un État, c'est la création d'un État-nation. Puis ce serait d'ailleurs la création du seul, ce serait le seul État-nation, d'ailleurs, au Canada, puisque le Canada, c'est pas une nation. C'est pas une insulte de dire ça. C'est Justin Trudeau l'a dit lui-même. Mm-hmm. Le Canada, c'est un État post-national.
Canada has no core identity, qu'il avait dit.
C'est ça,
ouais.
Qui dépasse les nations. Donc, le Canada, c'est une espèce d'entité. Marc Chevrier parle d'un empire, puis il y a des bonnes raisons d'en parler. Il y a plusieurs éléments qui permettent de penser ça. Le Canada, c'est une entité qui englobe plusieurs communautés, plusieurs populations dans le Canada. Le Québec, lui, prétend être une nation. Donc, le Québec peut devenir un État-nation, mais encore faut-il qu'il agisse comme tel. Mm-hmm. Si on va dans les recommandations là, plus précises, il y a effectivement la proposition de la Constitution du Québec. Dans les médias, c'est vraiment de ça qu'ils ont parlé, parce que la Constitution, c'est la base en fait de la création d'un État, une Constitution. Ça, en réalité, il faut savoir que la Constitution du Québec, elle existe déjà. Je vais peut-être surprendre des gens en disant ça, mais la réalité, c'est que la Constitution du Québec, elle est à l'intérieur de la Constitution du Canada. Elle existe à travers, par exemple, des lois fondamentales comme la loi 101, la loi sur la langue française, la loi sur la laïcité de l'État. En fait, la loi sur la laïcité de l'État, on pourrait peut-être en reparler, là, mais la Charte des droits de la personne, qui est d'ailleurs était au Québec avant d'être au Canada. Fait que des lois qu'on dit quasi-constitutionnelles, des lois qui sont au-dessus des autres lois. Puis l'idée, ce serait de les codifier, donc de les rassembler et peut-être d'établir des principes là, plus définis qui représentent qu'est-ce qu'est la nation québécoise. Mais en fait, si on voit juste la recommandation de la Constitution du Québec, c'est peut-être pas clair à quoi ça va servir, parce qu'on vient mettre ensemble des choses qui existent déjà. Là où ce que ça devient intéressant, c'est parce qu'ils ont tout un système qui crée autour de la Constitution du Québec. Il y a le Conseil constitutionnel qui veut le créer. Bon, conseil constitutionnel, à quoi ça sert? Il y a déjà une Cour suprême, etc. Mais il y a une autre recommandation qui dit que, bon, suite à des négociations puis des questions, la disposition de dérogation pourrait être utilisée pour déroger de la Cour suprême, en fait, du Canada, mais que la disposition de dérogation n'empêcherait pas les lois québécoises d'interpréter en vertu de la Constitution du Québec par le Conseil constitutionnel.
Okay. Donc là, c'est ça, parce qu'il faut expliquer c'est quoi un conseil constitutionnel. C'est quelque chose qui existe en France. Oui. C'est donc une instance de 9 membres qui sont comme un équivalent de juge, si on veut, qui vont interpréter la constitutionnalité, donc la légitimité puis la légalité des lois passées en France. Et donc, ce que propose le rapport, ce que tu es en train de dire, c'est que le Québec lui-même nomme des gens qui fassent leur propre interprétation en vertu de la perspective québécoise, des lois québécoises, pour que lorsque on a une loi, par exemple, qui est contestée en Cour suprême, comme c'est le cas en ce moment avec la loi, la loi 96 et la loi 21 sur la laïcité, que si le fédéral, la Cour suprême fédérale vient charcuter nos lois puis en réduire, disons, l'étendue puis l'effectivité, ben, qu'on ait un contre-pouvoir juridique pour dire non, en fait, c'est légitime cette loi-là pour telle ou telle raison, ou non, c'est pas légitime pour telle ou telle raison, mais qu'au lieu que ce soit des gens d'Ottawa puis du reste du Canada qui nous disent ça, ce serait des Québécois qui nous le disent. C'est-tu un peu comme ça que je le comprends?
T'as assez bien compris. Je dirais que, je vais reprendre tes mots, c'est de donner de la légitimité à nos lois. Parce que l'utilisation de la disposition de dérogation, ça crée un problème. On utilise la disposition de dérogation pour que nos lois ne soient pas cassées dans le système canadien qui regarde une nation différente avec les yeux d'une nation différente, qui, on l'a dit, n'en est pas tout à fait une. Nous, ce qu'on veut, c'est pas d'aller contre les droits de la personne. Mm-hmm. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre interprétation des droits de la personne soit faite avec les yeux des Québécois, mm-hmm. avec les valeurs des Québécois, la pensée, la philosophie des Québécois, qui n'est pas celle de la Cour suprême du Canada, malgré ce qu'elle prétend. Mm-hmm. Donc, l'idée, c'est de donner de la légitimité. Parce que la disposition d'érogation, malheureusement, elle enlève de la légitimité parce qu'elle déroge à des droits fondamentaux, mais pas parce qu'elle veut nécessairement déroger à des droits fondamentaux, mais parce qu'elle veut déroger de l'interprétation qui est faite de ces droits-là par une autre société qui n'est pas la nôtre. Donc, on veut remettre l'interprétation de nos lois, des droits de la personne par rapport à nos lois au Québec pour que le test soit fait au Québec et qu'on puisse avoir notre propre façon de voir notre société qui est chez nous. Donc ça, c'est dans l'esprit de la création d'un État-nation.
C'est intéressant. Et comment est-ce que le rapport explique un peu comment on nomme les gens qui feraient partie du Conseil constitutionnel ou il laisse ça un peu à la décharge du gouvernement d'en définir les modalités?
Je pourrais pas te le confirmer avec précision parce que c'est pas la partie là que... Par contre, je pourrais dire qu'en général, ils donnent rarement là, le comment faire dans le détail parce qu'ils veulent pas se mêler du politique en lui-même. Ils ont une autre recommandation qui est, par exemple, pour la nomination des juges à la Cour d'appel puis à la Cour supérieure. C'est le fédéral. C'est Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, qui nomme les juges de ces cours-là qui sont québécoises.
Et ce serait Pierre Poilievre dans une couple de mois.
Bon, mais c'est affaire. Ça. Ce serait Pierre Poilievre dans une couple de mois. Puis là, ils disent qu'il y a manière de faire en sorte que ce soit le Québec qui nomme les juges.
OK.
Par, dans le fond, ce qu'on appelle une convention constitutionnelle, je pourrais expliquer là, dans deux minutes c'est quoi, mais l'idée, c'est de dire que le Québec est capable de le faire, mais ils disent pas comment faire la sélection. Ils disent « il y a manière de faire la sélection, voici comment procéder, mais pour la manière dont vous allez choisir vos juges, c'est à vous de décider, c'est vous le législateur. Mm-hmm. » Donc, ils vont pas jusque-là. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est pour la Cour suprême, le Conseil constitutionnel.
Ils disent « c'est faisable, à vous de voir comment vous voulez le faire. »
Oui, c'est ça. Mm-hmm. Dans l'esprit général du texte, là, il faudrait voir là, le détail. D'ailleurs, ils font la même chose aussi pour le lieutenant-gouverneur. Le lieutenant-gouverneur du Québec, on rappelle que c'est le chef d'État. Le chef d'État, c'est pas le premier ministre. Le premier ministre, c'est le chef du gouvernement du Québec. Le chef d'État du Québec est nommé par le premier ministre du Canada. Mais là, on va dire, bon, c'est symbolique, etc. Il y a quand même plusieurs pouvoirs qui restent entre ses mains. C'est en vertu de conventions constitutionnelles. Mm-hmm. Conventions constitutionnelles, là, en quelque
sorte. C'est de la tradition.
C'est une tradition qu'on dit constitutionnelle parce qu'elle a quand même une force contraignante. Mm-hmm. Mais c'est une force contraignante qui est politique. C'est-à-dire que si on ne respecte pas cette convention-là, il va avoir des conséquences politiques importantes. Mm-hmm. Parce que le lieutenant-gouverneur, c'est lui qui nomme le premier ministre du Québec, en théorie, mais c'est quand même la population qui l'élit. Puis on le sait que s'il nommait quelqu'un d'autre que ce que la population avait élu, bien, ça serait quand même une crise politique assez majeure. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est constitutionnel. Mm-hmm. Même si c'est pas inscrit dans la Constitution.
Et donc, mais c'est un rapport qui est très créatif, hein, donc, qui va dans plusieurs directions, qui propose plusieurs mesures pour, comme tu l'as dit dans ton texte, revitaliser la question de la nation québécoise. Et notamment, une des choses qui est intéressante que j'ai vue dans le rapport, c'est qu'il propose que le Québec définisse enfin, parce que ça fait 20 ans qu'on en parle, de la question de... Ils disent la gestion de la diversité, mais c'est dans le fond, quel modèle de société est-ce qu'on veut pour intégrer les immigrants, puis parler de diversité culturelle, puis encadrer ces choses-là? On parle... Le Canada a sa propre politique depuis 1971 avec la loi sur le multiculturalisme canadien, qui est quelque chose qui clairement ne nous convient pas. Mais nous-mêmes, Québécois, on n'a jamais défini clairement dans une loi ce qu'on voulait. Des fois, on parle d'interculturalisme. Des fois, on parle de convergence culturelle. Ben, le rapport, il propose que on arrête de juste parler puis qu'on agisse.
C'est tellement juste ce que tu viens de dire, Renaud. Je trouve qu'il y a énormément d'éléments sur lesquels, au Québec, on n'est pas content, mais on a de la marge pour légiférer, pour agir, puis on le fait pas. Mm-hmm. Bon, on pourrait retourner à Bouchard-Taylor parce que les questions de la diversité est venue à ce moment-là.
Oui, la question sur les accommodements religieux dans les années... fin années 2000, là. Pour mettre en contexte.
Oui, merci. Puis, mon collègue, on regardait, parce qu'il y a aussi une proposition qui est de créer une citoyenneté pour la nation québécoise. En fait, c'est de donner une définition à la nation québécoise, une définition juridique. Mm-hmm.
Qu'est-ce qui fait qu'on est citoyen du Québec? C'est ça?
C'est quoi un Québécois?
Okay.
La question est encore plus fondamentale que ça. Qu'est-ce que c'est un Québécois? Puis, je pense qu'on passe notre vie à s'ostiner là-dessus, mais on ne tranche jamais la question parce que C'est peut-être parce que c'est trop sensible, c'est trop, un peu comme avec ce qu'on parlait pour la laïcité. Mm-hmm. C'est tellement sensible qu'on veut pas, on veut pas, on n'ose pas aller là. C'est quoi un Québécois? Puis c'est parce que là, si on définit la nation québécoise, on pourrait le faire directement dans notre code civil. Mm-hmm. On a le droit de faire ça. Puis de faire ça, ça donnerait aussi des pouvoirs au Québec, puis aux Québécois, qu'on n'a pas en ce moment. Parce qu'en ce moment, quand un Québécois, on sort, on va en France, on va en Algérie, peu importe, on est... Oups, je suis sorti du Québec, je suis un Canadien. Mm-hmm. Je suis plus un Québécois. Ouais. Au Québec, je sais c'est quoi un Québécois, mais quand je suis ailleurs, je sais pas c'est quoi. Si on avait une nationalité écrite dans inscrite dans le Code civil, ben je m'en vais ailleurs, puis le Québec peut avoir des ententes particulières avec ce pays-là, disons, avec l'Algérie. Puis aussi, en échange, on pourrait aussi donner des conditions particulières aux gens de l'Algérie. Mm-hmm. Pour avoir des échanges de nation à nation de cette mm-hmm. nature-là avec des pays étrangers. Puis aussi, ça avait été discuté, mais...
C'est aussi pour la question d'intégration des immigrants. Les immigrants pourraient davantage savoir quand ils arrivent ici, ça veut dire quoi être au Québec, ça veut dire quoi devenir un Québécois aussi. Il y aurait une définition concrète oui. plutôt que des messages parfois contradictoires à gauche, à droite.
Puis je tiens à dire une chose aussi, parce qu'on nous pose souvent la question de la nation. On dit toujours ethnique versus civique. Puis moi, je pense pas que c'est des choses qui s'excluent mutuellement. Mm-hmm. Parce qu'un immigrant qui arrive ici, qui n'a pas des ancêtres québécois, pour moi, ça va de soi qu'après un certain temps, après certaines... pour certains critères, ben il va pouvoir être québécois. Mais ensuite de ça, la nationalité québécoise, elle pourrait être donnée à un nouvel arrivant. Puis elle pourrait être donnée aussi à un descendant de quelqu'un qui vient de notre histoire, qui est à l'extérieur du Québec. On pourrait donner cette nationalité-là aux Acadiens, par exemple. Mm-hmm. On pourrait offrir... pourquoi est-ce qu'on ne l'offrirait pas à eux? Puis ça leur donnerait des privilèges particuliers, par exemple, pour aller dans nos écoles, mm-hmm, mm-hmm. aux Acadiens.
Comme les Cajuns, par exemple, qui perdent vraiment leur français de façon massive. Ça pourrait effectivement avoir une porte d'entrée au Québec avec une forme de nationalité québécoise ou de citoyenneté, une diaspora étendue, mettons.
Mais oui, ouais, c'est pourquoi pas une espèce de... Ça c'est notre imagination, c'est libre à notre imagination, mais pourquoi mm-hmm. pas une circonscription des Québécois hors Québec?
Ouais.
Ben
ouais.
Pour qu'ils puissent voter à nos élections.
Ben oui, c'est brillant, effectivement. Effectivement, ça a de l'allure parce qu'en ce moment, c'est limité, cette capacité-là.
C'est ça. Puis c'est dans ce sens-là que je dis qu'un n'exclut pas l'autre. On peut donner plus de droits à plus de gens. Mm. Puis d'ailleurs, on va avoir une conférence qui porte strictement sur ce sujet-là au mois de février. Okay. La date est à déterminer. Mm-hmm. Mais au mois de février, Édouard Baraton, qui a beaucoup réfléchi sur cette question-là, va venir nous parler là, vraiment de la question de la nationalité québécoise, de la citoyenneté québécoise, comment est-ce que c'est possible dans le cadre canadien, etc. Puis, en fait, il va nous apprendre un petit scoop qu'on a déjà eu une nationalité québécoise puis qu'on l'a enlevée nous-mêmes.
Ah ouais, OK. OK, on y reviendra, intéressant.
Oui. Mm.
Et donc, sinon, il y a beaucoup d'autres mesures qui sont proposées, notamment concernant Télé-Québec. Oui. Le rapport s'est penché sur vraiment une large, large gamme de sujets. On n'est même pas allé dans le détail sur tout ce qui est de... Il y a plusieurs recommandations sur les relations internationales, mais il y a aussi plusieurs recommandations sur la politique québécoise interne. Et
oui.
Il propose vraiment de faire de Télé-Québec, disons, le porte-voix, puis de donner plus de pouvoir, notamment en termes d'information régionale, qui est quelque chose qui est en déclin aussi au Québec, les médias locaux. Donc, vraiment, c'est intéressant.
Puis c'est d'autant plus pertinent dans le contexte où on voit que... Je sais qu'il y a beaucoup de défenseurs de Radio-Canada. Radio-Canada fait du bon contenu, mm-hmm. puis des fois du moins bon aussi. Puis ça fait longtemps que Radio-Canada est critiqué. Il faut savoir d'ailleurs que Radio-Canada, c'est une société de la couronne. Puis elle a une imputabilité envers la couronne. Puis le mot n'est pas exagéré. On parle souvent d'État canadien, mais l'État canadien n'existe pas en droit canadien. C'est la couronne qui est l'État. Et Radio-Canada, c'est une société de la couronne. C'est okay. une société royale. Puis, mais ça ne veut pas dire qu'elle fait juste du mauvais travail. Elle fait du bon travail. Mais là, en plus, elle est critiquée dans le Canada anglais. Mais là, ouais. c'est le pendant anglais, là, CBC.
CBC ouais.
Et on sait que l'éventuel premier ministre prochain, si les sondages ont raison, il propose de saboter CBC. Fait que là, il va rester le pendant francophone.
Mmh. Puis il est très flou aussi, justement, à savoir s'il va peut-être... Il a pas exclu non plus clairement de couper dans Radio-Canada francophone. Là.
En tout cas, il y a un doute, ça c'est certain. Ouais. Donc, d'autant plus pertinent qu'au Québec, on renforce cette institution-là qui existe déjà, Télé-Québec, qui est assez consensuelle, qui font quand même un bon travail. Mm-hmm. Donc, qu'on rapatrie le pouvoir des télécommunications chez nous. Donc ça, effectivement, ça s'inscrit encore une fois dans le cadre canadien, comme on l'a dit, mais c'est une action que le Québec peut faire dès aujourd'hui.
Absolument.
Il y a une autre recommandation dont j'aimerais parler. Celle-là, je ne l'avais vraiment pas vu venir. Je la trouve très, très, très intéressante. Je vais vous donner le nom de l'article dans la charte, mais ce n'est pas important pour vous, mais c'est l'article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. C'est un article qui met en égalité ou en symétrie les droits des anglophones du Québec, qui sont à la fois la minorité provinciale québécoise et la majorité canadienne. Quand on parle de minorité, c'est ambigu. Mm-hmm. Puis là, il met en symétrie cette communauté-là du Québec avec les minorités francophones du Canada, qui sont une minorité dans les provinces et qui sont une minorité au Canada, donc une double minorité avec une espèce de majorité-minorité. Ils les mettent en symétrie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le Québec fait une loi puis que, par exemple, les droits de la communauté anglophone reculent, bien, les juges, les tribunaux interprètent ce recul-là comme un recul pour les francophones du reste du Canada. Mm-hmm. Fait que ça place nos deux société, donc oui. La société québécoise francophone, mm-hmm. puis les minorités francophones du reste du Canada, dans une situation que j'appelle d'hostilité artificielle. Uh-huh. Parce que c'est des alliés depuis toujours, c'est des gens qui découlent de la même histoire, puis aujourd'hui on est rendu qu'on se distingue, on dit, bon, oui. C'est même plus des franco-canadiens, c'est des franco-saskatchewanais, des franco-ontariens, oui. C'est toutes des petites communautés qui font partie du mm-hmm. Canada. Le rapport, j'irai pas dans les détails, mais il propose une manière de casser cette symétrie-là. Puis la manière dont il la propose, je ne suis pas un expert constitutionnaliste, mais ça me semble se tenir. C'est super intéressant. C'est dans une négociation avec le Canada, parce que Justin Trudeau a reconnu finalement qu'il n'était pas dans une situation d'égalité.
Oui, avec la nouvelle loi sur les langues officielles, c'est ça.
Exactement.
Où on reconnaît un déclin du français. Ça a tout pris pour...
Exactement.
Salutations à Jeannette Petitpas-Taylor, la députée fédérale qui était la ministre responsable de ça. Qui a tout donné pour...
qui est une franco-Québec.
Ouais, c'est une Acadienne, oui.
C'est une Acadienne. Puis, effectivement, fait que là, on les prend au mot. Dites, bon, mais vous reconnaissez qu'il y a une différence. Alors, négociez avec le Québec pour que les minorités francophones du reste du Canada conservent leurs droits, puis que celles du Canada, qu'on revoie les droits qu'ils ont, celles du Québec, c'est-à-dire la communauté anglophone du Québec, qu'on revoie leurs droits pour qu'on arrête cette situation-là qui nous empoisonne notre société.
Mm-hmm. Oui, parce que c'est ça, il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré que la loi sur les langues officielles, dans cette posture de symétrie-là, en fait, ce qu'elle faisait, c'est que le gouvernement fédéral donne de l'argent, par exemple, aux communautés francophones hors Québec pour assurer leur survie, mais elle en donne également aux anglo-québécois, aux institutions anglo-québécoises comme McGill.
Genre McGill.
Oui, alors qu'ils n'en ont pas besoin. Puis qu'en fait, en finançant, en subventionnant à fond des institutions anglo-québécoises, ils contribuent à l'anglicisation du Québec.
Exactement. Puis ce qui fait en sorte que quand on demande qu'ils financent moins McGill, ben on se fait traiter de plein de marde par un franco-canadien.
Ah, ouais, mais ça c'était tragique. C'est vraiment triste.
Mais c'est ce genre d'absurdité-là à laquelle on fait face à cause de cet article-là de la Charte. Mmh. C'est un article qui était machiavélique. Franchement, là. Puis c'est ça, je trouve que c'est un élément intéressant du rapport parce qu'il permet de. Il permet de penser. En tout cas, moi, j'avais jamais pensé à cet aspect-là. Donc, ça, là-dessus, là, vraiment, je le salue pour ça. J'ai souligné aussi, il y a un article que j'ai
publié. Oui, c'est ça, en conclusion, c'est ça. Tu l'as sorti récemment, cet article-là. C'est pas il y a deux semaines. T'as écrit une lettre dans le Devoir.
C'est jeudi dernier qui est sorti.
OK.
Oui, c'est jeudi dernier, puis dans le fond, ça s'appelle « Revitaliser la question nationale ». Puis dans le fond, je fais le tour un peu des choses dont on a discuté, puis je souligne aussi certains angles morts, ce que j'appelle les angles morts.
Mm-hmm.
Évidemment, là, l'éléphant dans la pièce, c'est que le rapport n'a pas de recommandations qui concernent les nations autochtones.
Mm-hmm.
Je pense que je veux pas parler pour eux, mais je pense que les responsables du rapport, c'était pas leur expertise, c'est une question complexe.
Mm-hmm. Puis ils ont eu un temps assez limité.
Ils ont eu un temps très limité.
Pour faire leur rapport.
Et pour moi, ça n'excuse pas que cette question-là ait été mise de côté, mais ça l'explique. Toutefois, il n'y a rien qui exclut que la posture du rapport, qui est vraiment dans un esprit de nation à nation, autant avec les provinces québécoises, avec l'État fédéral qu'avec les États internationaux, je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas cette posture-là de nation à nation, cette logique-là, mm-hmm. lorsqu'on négocie avec les nations autochtones.
Absolument. Puis c'est déjà une tradition québécoise.
C'est ça. Puis je le mentionne, là, une piste de réflexion là-dessus. Une deuxième limite que je vois de ce rapport-là, c'est les modifications unilatérales. Je l'ai mentionné un peu tantôt. Oui, on vient modifier la Constitution du Canada au niveau de l'écriture. Mais en réalité, on modifie la Constitution du Québec. On ne sait pas encore, puisque les tribunaux ne se sont jamais prononcés là-dessus, si cette modification-là va avoir des effets au niveau de la vraie Constitution du Canada. Parce que la Constitution du Canada, il faut savoir, c'est un peu bizarre, là, mais ce qui est écrit, c'est pas nécessairement ce qui est véritablement constitutionnel, puisque des fois, il y a des choses constitutionnelles qui sont pas écrites. Donc, ça, les tribunaux vont avoir à se prononcer là-dessus, puis il y a rien qui nous garantit que ces modifications-là vont avoir un véritable effet constitutionnel. Donc, ça va être important que les Québécois prennent conscience de cette possibilité-là pour éviter qu'on se raconte des histoires puis qu'on se réveille un matin où on se disait qu'on avait un droit de veto puis que finalement, le Québec est exclu de la table des négociations.
Donc, très intéressant, très prometteur ce rapport-là. Je pense que ça vraiment, on pourrait dire que ça a une portée historique, carrément. Et hâte aussi de voir qu'est-ce que le gouvernement Legault va faire avec toutes ces options-là qu'il y a sur la table. Tu l'as mentionné d'entrée de jeu. Le gouvernement Legault l'a fait dans un contexte où les sondages étaient en sa défaveur. C'est quelque chose qui n'a pas changé. Le gouvernement Legault est encore à terre dans les sondages et le taux d'approbation. Penses-tu qu'il y a des pistes là-dedans qui vont être mises en œuvre concrètement par le gouvernement Legault?
C'est une excellente question. Le rapport, il faut savoir qu'il est sorti dans un contexte où Donald Trump, le gouvernement des États-Unis, vient d'annoncer qu'il allait monter les tarifs au Québec. Oui. Ça a monopolisé la discussion, puis François Legault a beaucoup intervenu là-dessus, ce qui a fait en sorte qu'il n'a pas beaucoup commenté le rapport. Par contre, moi, je m'attends à ce que la Constitution du Québec, ce soit un projet qui soit proposé par la CAQ, probablement par Simon-Jolin Barrette. Simon-Jolin Barrette, pardon, le ministre de la Justice, je pense qu'il va vouloir pousser pour qu'il y ait des actions qui soient prises. Je ne sais pas exactement lesquelles, mais je pense que le sens général du rapport, il va le garder. Ensuite, François Legault, il me semble, à une période dans sa vie qui me semble pas mal être au bout de son mandat. Je ne sais pas à quel point il va vouloir... Parce que c'est un rapport qui est exigeant. Chaque recommandation demande un effort exigeant. C'était quelque chose que François Legault aurait pu faire au début de sa carrière parce qu'il était dans cette logique-là, mais j'ai l'impression qu'il n'est plus à cette période-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne fera rien, mais je ne pense pas que ça va être le principal porteur de ballon. Là, c'est mes prédictions bien personnelles. Par contre, il y en a peut-être dans son équipe, comme c'est le ministre de la Justice, qui, lui, va vouloir le porter.
C'est ça, des gens énergiques là, qui se voient un avenir encore politique parce qu'il y a vraiment l'occasion de relancer puis mobiliser les Québécois avec plusieurs propositions là-dedans, de façon constructive aussi.
Puis il y a manière à faire, puis c'est pour ça que je viens au micro, il y a manière de venir en parler puis de l'expliquer parce que ça nous concerne. Il ne faut pas que ça soit des décisions qui restent juste entre les mains de deux, trois juristes, de constitutionnalistes qui aiment ça finir par chanter puis s'écouter. Ouais. C'est des éléments qui concernent la société québécoise. Il faut en parler. Puis à la maison, n'hésitez pas à poser des questions, à essayer de réfléchir. Le rapport a un caractère pédagogique, puis ça, c'est un grand mérite qu'il y a.
Peux-tu en rappeler le nom?
Le rapport, c'est...
Ambition, affirmation...
Je lis juste...
On ne sait plus l'ordre. Mais anyway, si les gens écrivent Guillaume Rousseau, Sébastien Proulx, Constitution, ils vont le retrouver.
Oui, c'est ambition, affirmation, action.
OK. Ambition, affirmation, action. Super intéressant. Donc, merci beaucoup, Vincent, pour ce tour d'horizon du rapport. C'était super intéressant.
Merci, Renaud.
On va maintenant aller à la pause. De retour en onde, il nous reste maintenant 8 minutes et on sera rendu à 14 heures. Donc, je vais prendre le peu de temps qui reste pour vous parler de la situation politique et militaire en Syrie, puisque en 24 heures, ça a énormément évolué, puisque effectivement, le régime de Bachar al-Assad, qui était au pouvoir depuis 2000, et si on remonte avec son père Hafez al-Assad, en fait, Hafez al-Assad avait pris le pouvoir dans un coup d'État en 1970. Donc, la dynastie père-fils des Assad a régné pendant 54 ans sur la Syrie. Les 13 dernières années ont été entachées par une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts, des millions de réfugiés. On en a entendu parler de bord en bord pendant plusieurs années. Et maintenant, en 11 jours seulement, on a eu un revirement de situation massif alors qu'il y a eu une offensive concerté des différents groupes rebelles qui d'habitude sont assez divisés. Les groupes rebelles se sont concertés un peu partout à travers le pays pour mener une offensive face au gouvernement syrien. Et en fait, ça a vraiment été fulgurant la vitesse avec laquelle le régime est tombé. L'armée qui était censée être fidèle, l'armée du régime d'Assad qui était censée être fidèle, a complètement abandonné leur position et leur poste. Assad s'est retrouvé isolé très rapidement et il a fui maintenant la capitale. Il est rendu en asile politique à Moscou. Tout ça s'est passé extrêmement vite. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Eh bien, il faut se rappeler que Assad a vraiment été proche de perdre le pouvoir durant la guerre civile, notamment vers 2012, 2013, 2014. Et c'est l'intervention du gouvernement russe de Vladimir Poutine, de même que celui du régime iranien, qui a permis vraiment de sauver la mise et de le maintenir au pouvoir. Mais qu'est-ce qui est arrivé depuis quelques années? Depuis 2022, février 2022, la Russie s'est mise à être pas mal occupée en Europe avec le conflit en Ukraine. Donc l'essentiel des forces russes sont maintenant mobilisées dans cette région de l'Ukraine. Et donc il manque de place, il manque d'effectifs russes pour garder Assad au pouvoir en Syrie. D'autre part, l'Iran, depuis 2023, se retrouve assez vulnérable. Ils ont perdu plusieurs généraux, notamment, on pourrait remonter à 2020 là, avec Qassem Soleimani qui avait été assassiné d'une frappe de missile. Qassem Soleimani est un général très proactif en Syrie. Et on pourrait aussi penser au Hezbollah, qui était un soutien militaire important au régime d'Assad. Le Hezbollah a été décimé, tout son leadership a été décimé dans les derniers mois par Israël. Donc maintenant, ça fait que tous les soutiens à peu près d'Assad, les soutiens importants, ont perdu de la capacité à l'aider. Donc Assad s'est retrouvé vulnérable.
Si tu me permets, dans le fond, ce qu'on comprend aussi, Renaud, c'est que toutes les situations de guerre dans le monde ou tous les petits points qu'il y a dans le monde, ça a eu une espèce d'impact indirect qui a fini par concerner directement la Syrie.
Oui.
Comme quoi les choses sont pas mal interconnectées dans le monde.
Oui. Tout est vraiment... Effectivement.
La guerre en Israël, comme tu le mentionnes, a eu un effet direct, même si ce n'est pas la seule cause, vu que c'est interconnecté.
Absolument, absolument, puisque c'est venu affaiblir des alliés d'Assad qui permettaient de le maintenir en poste. Et donc, maintenant, ce qui serait intéressant d'aborder aussi, c'est de voir qui prend le pouvoir désormais. Il y a un vide. Et ça, un vide, ce n'est pas une belle chose. C'est une belle chose qu'Assad soit tombé, mais... l'incertitude quant à savoir quelle sera la transition, quelles en seront les modalités, ça laisse inquiet. D'abord, ça laisse inquiet parce que le leader des groupes rebelles qui est maintenant installé à Damas, à la capitale de la Syrie, c'est Abu Mohamed al-Julani. Abu Mohamed al-Julani, là, c'est pas un enfant de cœur, c'est pas un bon gars. C'est un ancien d'Al-Qaïda et de l'État islamique qui s'est reconverti auprès d'une milice qui s'appelle HTS. Je ne vous donnerai pas les détails, là. Je vais me garder une précaution quant au nom exact. Mais donc, c'est quelqu'un qui est clairement un islamiste. Il y a des plus radicaux que lui. Il dit dans son discours que maintenant, il est plus modéré puis qu'il va tolérer, par exemple, les minorités chrétiennes. Ce que ça veut dire concrètement, c'est on va vous laisser vivre si vous montrez pas que vous existez trop. Donc, cachez vos croix. Il était un peu... mais il faudrait quand même craindre, il faut avoir un principe de garder les yeux attentifs sur ce qu'il va faire, parce que même si dans son discours il dit qu'il va respecter les minorités, on sait l'État islamique, c'est pas un régime qui était très ouvert à la diversité. Là. Il avait fait un génocide envers les yézidis en Irak, pas non plus très ami avec les druzes et les chrétiens.
J'aimerais savoir, Renaud, ce que tu me dis aussi, c'est là, il y a eu un changement, etc., mais le fait qu'elle ait tombé, tu as dit que c'était parce qu'entre autres, il n'y avait plus le soutien des alliés. Qu'est-ce que ça parle, justement, sur le régime? Il y a un remplacement, mais à quel point est-ce qu'il va rester longtemps? Est-ce qu'il pourrait avoir des gens qui essaient de le renverser s'il n'y a plus de système qui le protège comme auparavant? Je parle de la stabilité du régime.
Le régime d'Assad est tombé, mais le nouveau régime, en fait, on ne sait pas à quoi ça va ressembler encore. Là.
C'est ça.
Puisque c'est vraiment un amoncellement de factions rivales qui s'est allié le temps de déposer Assad, mais le reste du temps, il passe à être en rivalité. Donc, est-ce que cette rivalité-là va continuer? Parce que ça se pourrait que... Parce qu'il y a parmi les différents groupes plusieurs désaccords. puisque il y a aussi, il faut savoir que tout le nord-est de la Syrie, depuis une dizaine d'années, en fait, c'est une région semi-autonome, puisque cette région-là, en fait, est peuplée majoritairement de Kurdes, qui sont un peuple qui n'ont pas de pays à eux, qui sont divisés entre la Syrie, l'Irak, l'Iran et la Turquie. Ils sont éparpillés un peu partout à travers cette région-là. Ils n'ont pas d'État proprement indépendant à eux. Et la Turquie n'aime pas que les Kurdes aient une forme d'autonomie en Syrie, puisque, en fait, ça menace un peu leur propre minorité kurde interne. C'est assez compliqué. Là, on n'a pas le temps en quelques minutes d'y revenir. Puis là, je vois qu'il me reste 1 minute 30 là, pour faire le topo sur tout ça. Mais ouais, ça reste très, très disons, propice aux rivalités puis aux conflits. Ça se pourrait que ce soit pas la fin de la guerre civile là, puis que ça se batte encore entre les factions rivales. Et ce ne serait pas une première, puisque quand le régime de Saddam Hussein est tombé en Irak en 2003, la guerre civile a continué en Irak pendant une dizaine d'années, là, et c'est pas quelque chose qui est réglé non plus. Le vide politique qui a été laissé a permis à différents groupes islamistes d'émerger, notamment l'État islamique. Si on pense, par exemple, aussi à la Libye en 2011, quand le régime de Muammar Kadhafi est tombé, qu'est-ce que ça a fait, le vide laissé? Ça a fait qu'il y a plusieurs factions rivales qui se sont mises à lutter pour prendre contrôle du pays. Il n'y en a pas une qui a réussi à monter définitivement et avoir la mainmise sur l'ensemble du territoire. Et encore aujourd'hui, 13 ans plus tard, en Libye, c'est encore le chaos, c'est encore la guerre civile. Et ce vide laissé-là, en fait, laisse la place à plein de conflits armés et fait aussi que la Libye est un peu une poche d'instabilité dans la région qui permet notamment la traite d'Afrique, la traite d'êtres humains, notamment en provenance d'Afrique. Là, on sait qu'il y a plein de migrants qui essaient de passer à travers le Sahara. Il y avait eu des images là, il y a plusieurs années, notamment de gens qui étaient dans des situations d'esclavage par les Libyens et aussi qui essaient après ça de traverser la Méditerranée dans des conditions horribles. Qu'est-ce qui va arriver en Syrie? Est-ce que justement, les groupes vont flirter avec la criminalité? On ne sait pas, là, il n'y a pas beaucoup de clarté. Puis là, Biden est encore au pouvoir pour quelques mois. En fait, pour un peu plus d'un mois, le 20 janvier, il part et c'est Trump qui rentre au pouvoir. Et Trump a clairement dit qu'il n'y avait aucun intérêt à se mêler de ce qui se passe en Syrie. Qu'est-ce que ça laisse en place? Ça fait que les acteurs locaux pourraient vouloir tenter de prendre leur part du gâteau chacun. On a déjà vu Israël, là, depuis hier, en fait. Ils ont fait des avancées dans les plateaux du Golan. Ils ont pris contrôle d'une zone qui était un peu une zone tampon, administrée par l'ONU et des gardes de frontaliers syriens. Les gardes frontaliers syriens ont quitté leur poste. Donc, beaucoup d'instabilité. D'une part, c'est une bonne nouvelle parce que Bachar al-Assad est quelqu'un qui gazait sa population. Là. C'est quelqu'un aussi qui mettait en prison pour toutes sortes de petites raisons des citoyens. Vraiment un dirigeant très, très, très autoritaire. Mais est-ce que des fois, c'est pas mieux d'avoir une forme d'autorité si ça peut maintenir la stabilité? Parce que il y a des précédents avec l'Irak et la Libye qu'en fait, on a créé des noyaux de djihadisme et d'islamisme, de criminalité internationale. Donc, beaucoup d'incertitudes à suivre. On n'a pas le temps d'en parler en détail, mais à suivre vraiment, ça laisse place à l'incertitude. On aura l'occasion d'y revenir au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Donc, voilà, ça fait le tour de l'émission aujourd'hui. Donc, merci Vincent d'avoir été parmi nous.
Merci Renaud, super belle discussion.
Avec plaisir. Et donc, merci à tous ceux qui nous écoutent. On se revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine sera probablement, en fait, ça sera la dernière émission de l'année de 2024. Et à toutes, salut.